Le moment, médias coopératifs et citoyens.
Avoir une bonne idée quand on écrit une chanson, c'est un peu comme l'amour. On ne sait pas pourquoi elle est différente, mais elle l'est. On ne sait pas pourquoi elle est meilleure, mais elle l'est. Elle reste dans la tête et on ne peut pas s'arrêter d'y penser. Taylor Swift. Allongée dans mon lit, le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir. On mène tous des combats, petits et grands. Il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat. Parfois, nos luttes deviennent un but en soi, une sorte de lutte permanente, quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait? À quoi ressemblerait le monde? Allongée dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir? C'est quoi ton délire? C'est quoi ce délire? Un podcast d'imagination politique.
Hello Florie.
Coucou. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette intro avec Taylor Swift. Meilleure façon de commencer un podcast.
C'était ça, je me suis dit que j'allais te faire plaisir parce que bon, t'es une grande fan de Taylor Swift.
Oui, tout à fait. Tout
et
à fait.
En plus de tout ça, pour les personnes qui nous écoutent, il y a un arc-en-ciel. Et alors là, moi, je suis la plus grande fan des arc-en-ciel. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier, j'ai eu une petite réflexion. Il y avait un arc-en-ciel hier aussi, c'était fabuleux. Et pendant ma journée au travail, j'ai vu qu'il y avait un arc-en-ciel et donc je me suis dit, je vais monter sur le toit du bâtiment pour aller voir cet arc-en-ciel. Et donc je me suis dit, tiens, je vais proposer à des collègues de faire ça. Et il y a des collègues qui se sont motivés, qui sont montés sur le toit avec moi. Et après, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être ça ma façon de résister, non? C'est de proposer aux gens une pause beauté, un prétexte pour arrêter de faire leur taf, le temps de, je sais pas, 10 minutes qu'on est monté sur le toit, on a pris des photos, on a vu l'arc-en-ciel et ça nous a fait plaisir.
Génial, un beau moment.
Mais ouais, grave, il faut s'accorder des moments de beauté, en Mais tout oui, cas, tout c'est important. Et bah écoute, merci beaucoup d'être là avec
merci
moi.
Merci à toi.
Ça me fait trop plaisir parce qu'en vrai, c'est cool d'avoir un podcast parce qu'au final, ça devient un prétexte pour voir les gens qu'on ne voit pas très souvent.
Pour inviter tes potes, discuter.
Tout à
trop
fait.
Bien.
Tout à fait. Et j'ai de la chance d'être entourée des potes qui font des choses chouettes. Donc, autant se dire que c'est plutôt une bonne façon de faire. Et donc, Taylor Swift, est-ce que pour toi, écrire, c'est un peu comme l'amour, comme elle le dit?
J'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, je pense qu'elle a raison. Bon, de toute façon, Taylor a toujours raison, mais oui, évidemment. Ouais.
Ouais. Un peu comme l'amour, donc, d'écrire. Et parce que oui, ce soir, on va parler de l'écrit. Il y a différentes raisons qui nous amènent à parler de ça. On va vous proposer de découvrir différentes facettes plus ou moins sérieuses de l'écrit. Et avant de faire ça, on va commencer par tirer une petite carte dans mon tarot des philosophes, puisque c'est désormais la nouvelle tradition de ce podcast. Donc, Florie, je t'en prie.
Ok. Est-ce que je coupe ou... J'ai déjà mélangé, mais est-ce que je coupe?
Tu le coupes et puis tu prends une carte là. Voilà, vas-y.
Georges Bataille.
Georges Bataille. Il est quoi? Parce qu'il y a une spécificité, tu sais, ça doit te dire que... Je sais pas, il y a un chiffre.
Il est marqué « Death
». Alors ça commence bien.
Voilà. Et oui, il y a le chiffre 13 en haut de la carte.
13, ok. Attends, on va le chercher. Georges Bataille. Donc, la carte de la mort est souvent associée à la transformation ou au nouveau départ.
Ok, ça va.
Le monde... zut, il y a un mot que je ne comprends pas. C'est parce que oui, pour les personnes qui nous écoutent, je fais de la traduction en direct de l'écrit en anglais vers le français. Donc, j'avoue que là, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Elle a tous les talents.
Mais je vais essayer de... Ah oui, il y a tout un délire autour de la décomposition et de la renaissance dans cette carte. La mort est en effet l'axiome à travers lequel la nouveauté arrive. Néanmoins, il y a des forces qui peuvent parfois empêcher la nouveauté d'arriver. Est-ce qu'on va tout lire ? Je vais peut-être pas tout lire dans tout ça, mais je trouve que c'est plutôt pas mal de se dire, voilà, il y a des mots-clés. La transformation, le fait d'accepter le changement, le fait d'aller au-delà de ses propres conceptions ou de ses propres limites. La frustration, la stagnation et la brutalité. Je trouve que ça colle bien à la fois avec la vision de Taylor Swift sur le fait que le Christ serait comme l'amour.
Ouais, carrément.
Ça te dit quoi tout ça, toi ?
J'aime bien cette idée de renaissance, de voir dans la mort la renaissance. Déjà, ça, je trouve que c'est cool. Et ça, ce que tu m'as lu là de la carte, ça colle assez bien avec ce dont on va parler, l'écriture.
Bah ouais, carrément, et parce que quelque part, l'écriture, c'est un processus de transformation en fait.
Ouais, carrément, tout à fait.
Et surtout, il y a quelque chose d'assez... Est-ce qu'un texte doit mourir pour qu'on puisse en écrire un nouveau ?
Wow ! Est-ce qu'un texte doit mourir pour qu'on... je sais pas. Si on voit la mort comme la transformation, peut-être, oui. Mais je sais pas. Question difficile.
Question difficile, ouais. Bon, mais on va parler d'écrit. Et donc, avant d'aller encore plus loin, je rappelle juste l'idée de ce podcast, qui est celle de s'imaginer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Donc, pour cela, on va commencer par questionner les systèmes d'oppression. On va dresser donc un constat. Et puis ensuite, on va parler des pratiques des différentes personnes qui viennent dans ce podcast. Et on termine par essayer d'inventer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et je suis complètement consciente du fait que c'est un très, très, très vaste sujet. Mais est-ce que l'écrit est un outil de domination ?
Alors, moi, j'ai étudié le droit à la fac et j'ai retenu cette phrase qu'un prof nous avait dit, qui est que la seule existence d'une règle de droit est une contrainte au pouvoir. Même si elle est imparfaite, même si elle est peu ambitieuse, le fait qu'elle existe, qu'elle soit écrite, ça reste une contrainte à la dérive du pouvoir, etc. Et ça, c'est une phrase qui m'a marquée. Et je pense que, de prime abord, on aborde le sujet dans l'autre sens, en se disant que la règle est un instrument de pouvoir, mais qu'on peut aussi se dire que c'est un contre-pouvoir.
Ah, c'est trop intéressant.
Une limitation au pouvoir.
C'est trop intéressant, je trouve. Et du coup, est-ce que toi, tu te retrouves plutôt dans cette vision-là ?
En tout cas, c'est ce qui a guidé plus ma vision du droit et la manière dont j'ai appréhendé ce que j'ai appris en fac et quand j'ai travaillé, tu vois, la manière dont on applique la règle, etc. Plus comme un accompagnement, un cadre et oui, un moyen d'empêcher la dérive que comme une contrainte.
Je trouve ça vraiment hyper intéressant, comme un moyen d'empêcher la dérive, donc.
Ouais.
Parce qu'en fait, quelle serait la dérive, du coup ?
En fait, là, c'est vraiment l'idée l'écrit comme règle de droit. Enfin, en tout cas, si on parle là-dessus, c'est ce que j'avais commencé à dire sur l'écrit comme règle de droit, qui empêche l'abus, en fait. Plus là-dedans, tu vois.
Ok, c'est trop cool. Mais du coup, au-delà du fait d'être potentiellement un outil de domination, mais aussi donc une forme de contre-pouvoir, ma deuxième question, ça tournait plus autour de la notion de discrimination.
Ok.
Est-ce que la langue ou l'écrit peut être une façon de perpétuer une domination, une discrimination ?
Est-ce que tu as un exemple ?
Je pensais, par exemple, à l'écriture inclusive.
Ouais.
Au fait que c'est quelque chose qui est souvent très mal perçu, qui est très critiqué. Dès qu'il y a la moindre discussion autour de l'écriture inclusive, ça devient un gros débat, un faux débat d'ailleurs. Et il y a comme cette espèce d'a priori selon lequel la langue serait quelque chose d'un peu intouchable, tu sais ? Et par le fait d'être intouchable, c'est quelque chose qui a été... construite par une certaine population et cela n'intègre pas nécessairement tout le monde dans sa définition ni dans sa façon de fonctionner. Donc l'écriture inclusive, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est aussi le fait d'intégrer des mots qui viennent d'autres langues ou de, enfin, je sais pas, de nourrir, enfin, de faire croître et de faire évoluer le français autour de ça. Et cette espèce de vision un peu conservatrice de la langue comme quelque chose de très fixe, je trouve que ça en fait aussi un outil de discrimination au final pour des personnes qui ne s'y retrouvent pas nécessairement.
Ouais. En fait, ce côté intouchable dont tu parles, tu dis on a l'impression que c'est quelque chose d'intouchable. Je pense que c'est lié à l'histoire, tu vois, de, enfin, la langue, notre langue, c'est notre histoire, c'est une espèce de valeur commune, un lien commun à la société, etc. Je pense qu'il y a ça, et du coup, on lui donne peut-être un côté un peu noble et peut-être. Ça vient de là, cette notion où c'est intouchable, alors que pour moi, c'est vivant, quoi. Ça doit évoluer. Il faut que ça évolue et que ça s'adapte. Et donc, je comprends pas trop, moi, ces débats, parce qu'en vrai, il y a pas de sujet. Enfin, moi, je franchement, quand tu vois comment ça déchaîne les passions, enfin, c'est absurde. En vrai, il y a pas de sujet.
Absurde. Ouais, complètement. Mais c'est... En fait, justement, ça revient aussi à ce que tu disais au début, non ? En fait, de l'écrit comme une règle, comme la base, le point de départ. Et ça se retrouve aussi dans cette notion d'histoire que tu es en train d'amener. Le fait qu'au final, c'est une notion autour de laquelle on peut se retrouver, autour de laquelle on construit peut-être un imaginaire un peu commun. Et
ouais, des références communes, tu vois. Ouais.
Mais justement, juste pour pousser peut-être un peu plus loin l'idée de l'écrit comme une règle, c'est aussi que l'écrit, au final, c'est la base sur laquelle est construite le fonctionnement de nos vies.
Ouais.
Donc, toi, par exemple, dans les choses que tu es amenée à faire dans ton travail, t'es pas nécessairement obligée de nous dire ce que tu fais comme travail, mais tu as notamment une réflexion autour de documents d'urbanisme ou des documents de planification. Qui peuvent eux aussi. C'est un document qui détermine ce qu'on peut faire d'un espace ou pas.
Ouais, ouais, c'est hyper ça. Puissant. C'est en fait. Des règlements, en fait. C'est des règlements écrits qui viennent donner des contraintes, des possibilités et qui viennent, en fait, normer tout ce que tu as le droit de faire ou pas. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu étudies le droit, mais là, c'est le droit en général, c'est dans toutes les matières du droit. T'apprends ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, etc., les lois, les règlements, le bloc de constitutionnalité, etc. Et en fait, t'apprends que les règles écrites sont celles qui ont le plus de valeur par rapport aux règles qui sont non écrites, comme la coutume, tu vois, par exemple, ou en droit, on parle beaucoup de doctrine. Doctrine, souvent, c'est des choses un peu... C'est pas forcément des choses écrites. Et souvent, on donne plus de valeur, en tout cas en droit, c'est comme ça, aux choses écrites, aux règlements, aux lois, aux documents qui sont écrits. Et nous, ce qui régit, par exemple, en droit de l'urbain, ce qui régit notre matière, c'est des documents de planification. On appelle ça comme ça, un document de planification, avec des règles écrites. Alors même qu'on parle de territoire et, tu vois, d'espace. Mmh. Et pourtant, c'est normé par des règles écrites, des successions d'articles. Donc, quelque chose de très formel, finalement.
Oui, c'est ça. Et est-ce que ça arrive de faire évoluer cette norme écrite en fonction des usages des personnes? Est-ce que ce que tu disais, par exemple, la définition d'utilisation de l'espace plus qui relève plus de la coutume, est-ce que des fois elle s'impose à la règle écrite?
En fait, je pense que la coutume, quand elle finit par s'imposer, on la transforme d'une manière ou d'une autre en règle écrite, et c'est ça qui lui donne après sa valeur.
Ouais.
Mais oui, il y a forcément des coutumes qui s'imposent, etc. Mais je pense qu'il y a toujours un moment où ça bascule et où ça rentre dans le système normatif. Et du coup, là, ça devient un règlement écrit, une loi, tu vois.
Ouais, ça s'institutionnalise, quoi, c'est ça ?
Ouais, exactement.
C'est marrant parce que après, je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'assez propre au fonctionnement d'un pays comme la France.
Ouais, ouais,
parce
tout à fait.
Que... Je sais pas, par exemple, en ce moment, moi, je suis en train de travailler sur un cas en Afrique où c'est tout le contraire. Où on est en train d'essayer, justement, de reprendre des éléments qui viennent de ce qu'on appelle la ville un peu informelle, des informalités, au final. parce que c'est des espaces qui ont grandi avec une telle vitesse et avec une population qui est devenue tellement dense, tellement rapidement, que de toute façon, la règle n'a pas pu suivre. Enfin, il n'y a pas eu des moyens pour que la règle puisse suivre. Et donc, en fait, c'est les règles informelles qui ont finalement pris une forme de supériorité par rapport à la règle écrite.
Okay.
Et maintenant, l'évolution de la ville, elle est en train de se faire un peu dans les deux sens. Où il y a la partie plus formelle qui est en train de dire, bah, en fait, il y a de l'informalité et il y a des choses intelligentes qui se passent au niveau de l'informalité. Je pense que ça, c'est assez propre des pays en développement, en tout cas.
Oui. En tout cas, ce que je disais là sur le caractère, la hiérarchie des normes, etc. Et tout ça, c'est très français. C'est ce que moi, j'ai appris en fac de droit ici. Mm. Après, je sais que oui, il y a d'autres pays, d'autres cultures où peut-être on attache plus d'importance à la coutume, où la hiérarchie n'est pas forcément la même qu'ici. Mais je ne maîtrise pas trop de... Enfin, je n'ai pas de connaissance d'autres systèmes comme ça, mais c'est sûr qu'il y en a.
Oui, c'est intéressant, je trouve, parce que... Enfin, je ne sais pas, c'est intéressant de... Au final, ça revient à la même chose, non ? Ça revient à une confrontation entre l'écrit et ce qui est juste, qui relève juste du parler.
Ouais.
Sans être écrit.
Et c'est complètement un héritage qu'on n'a pas choisi, quoi.
Ouais, carrément. Carrément. Mais je pense, bref, je vais penser à plein d'exemples, en fait, où je suis en train de me dire, en vrai, je sais pas, les favelas, par exemple, au Brésil, c'est exactement ça. C'est des villes où il y a des codes de fonctionnement qui sont complètement basés sur l'oralité. Et sur une espèce de... Déjà, parce qu'il y a peut-être une partie de la population qui est même analphabète, par exemple.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que l'écrit aussi, c'est exclusif.
Ouais, carrément. Donc, toi, t'es juriste de formation. Donc, c'est ce que t'es en train de nous dire. Tu fais aussi un travail qui est assez technique. Et notamment, dans ton travail, tu emploies les mots dans leur aspect peut-être le plus technique, au final. Est-ce qu'il y a des choses dans cette technicité des mots qui, pour toi, ne vont pas ?
Alors, il y en a. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je travaille beaucoup en droit de l'urbanisme, en droit de l'environnement, on fait de l'aménagement du territoire. On a un lexique, on a un vocabulaire qui est très particulier, qui est complètement propre à ce qu'on fait. On use et on abuse des acronymes, ça me rend ouf. C'est vraiment, mais pour tout le temps. Alors, les documents de planification, c'est un monde en soi, mais mais même, je veux dire, dans notre quand on travaille entre nous sur des choses plus terre à terre, on abuse beaucoup de ça aussi. Et on travaille, moi je travaille dans l'administration, dans la fonction publique. On essaye de travailler sur le FALC, le facile à lire et à comprendre. Mm-hmm. On essaye de on essaie de traduire, mais c'est déjà un problème. On doit traduire ce qu'on fait pour que ce soit compréhensible des gens. Donc, déjà, il y a un problème. Mmh. Et oui, on essaye, mais on part de tellement loin. On est à la fois sur des documents qui sont hyper techniques. On est sur du droit. On est sur des règlements qui sont transversaux, qui mêlent des normes environnementales, qui mêlent des normes de réglementation de la construction. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et du coup, c'est très technique, donc illisible par principe.
Mmh. En fait, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'il faut traduire ce que vous faites. Parce qu'en fait, au final, on se rend compte que on parle une langue commune qui est le français, mais en réalité, on parle tous des langages techniques très différents. Et même entre techniciens, on n'arrive pas à se comprendre, en fait.
Ouais.
C'est... Parce que ce que tu dis à propos du secteur de l'urbanisme ou de l'environnement, c'est aussi propre à chaque secteur a tous ses acronymes. Et c'est vrai qu'une des premières choses à laquelle on se heurte quand on arrive dans un nouvel endroit, dans une nouvelle administration notamment, c'est à devoir mémoriser tous les acronymes de l'administration, quoi.
Ouais, c'est assez effrayant. Et oui, je pense que c'est propre à... On a tous nos biais. Il n'y a pas qu'en urbain où on est comme ça, mais je vois pas trop d'amélioration, quoi. Moi, ça fait quelques années que je suis là-dedans. Toujours autant de cycles, voire plus qu'avant. Ça se complexifie toujours, quoi.
Mais parce que même s'il y a déjà cette réflexion, au moins sur le fait de devoir traduire le langage technique, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, peut-être qu'on va tout simplement simplifier le langage technique, comme ça, il n'y a plus besoin de traduire. Mais en fait, non, au contraire, c'est plutôt... Ouais. Toujours pareil, quoi.
Et puis oui, et puis enfin c'est assez absurde parce qu'on parle quand même de choses, on parle de la manière dont on aménage l'espace dans lequel on vit, donc c'est c'est quand même, ça devrait être accessible, quoi.
Ouais, complètement. Et c'est peut-être que si c'était plus accessible, justement, il pourrait y avoir plus d'échanges entre la manière dont les gens utilisent un espace et puis la manière dont on écrit la norme qui permet de régir cet espace dans lequel on vit.
Ouais.
Je pense notamment, je pense que c'est un cas dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est un aménagement urbain à côté de chez moi qui arrêtera jamais de me surprendre, mais c'est une voie qui était initialement une route qui a été réaménagée suite au Covid pour dire on va mettre que des vélos, enfin les voitures ne peuvent plus y passer. Et en fait, ça a créé une situation qui n'a pas été réfléchie. Justement, il n'y a pas de norme. Personne n'a écrit ça. On a simplement fermé un passage.
OK.
Et ça s'est transformé en une forme de chaos. Donc, j'ai fait des réunions publiques avec des gens qui sont tous en colère parce que les piétons détestent les cyclistes détestent les piétons, les gens qui servent dans les bars qui sont obligés de traverser la piste cyclable aller servir un café... Ils détestent encore plus tous les autres. Les gens qui sont avec une poussette, bah, c'est encore pire. Et c'est vrai que là, au final, on arrive à voir dans quelle mesure l'usage, il n'arrive pas non plus à se régler tout seul.
Ouais.
Il manque l'écrit, il manque la règle, en fait. Et je trouve ça assez surprenant. Ça me surprend cette incapacité des gens à s'auto-organiser, en fait.
Ouais.
Et d'avoir besoin de la règle, quoi. Est-ce que tu penses qu'on a toujours besoin d'une règle?
La juriste en moi a envie de répondre oui. Après, non, je pense qu'il y a plein d'exemples. Il y a plein de contre-exemples. Mais je sais pas, nous, on a ce côté où on se rassure avec des règles écrites. C'est un côté rassurant, c'est le confort, en fait. On sait qu'on a ça, c'est notre cadre, on le respecte.
Voilà. C'est facile.
C'est facile, ouais. C'est confortable.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a une forme de facilité, de calme, en fait, dans la règle.
C'est final. Ça.
Et que quand il n'y en a pas, on voit ce qui se passe, quoi. Ça peut devenir chaotique.
Ouais, exactement.
Et c'est drôle aussi parce que... finalement, l'écrit est un sujet qui nous rassemble. En fait, Fleury et moi, on a... Bon, pour la petite histoire, Fleury et moi, on a travaillé ensemble dans l'administration. Et on avait vraiment une très, très bonne relation de travail. D'ailleurs, je pense que jusqu'aujourd'hui, on considère l'une et l'autre que ça faisait partie des meilleures relations de travail qu'on a pu avoir. Et tout cela, même si on a des manières de structurer nos pensées qui sont assez différentes, mais qui s'avérait assez complémentaire, je trouve. Et quand on travaillait ensemble, on avait cette habitude où on prenait des grandes feuilles blanches qu'on collait sur les murs de notre bureau et on pouvait passer des heures et des heures à écrire des trucs dessus. C'était comme ça qu'on pensait. Qu'est-ce que tu retiens de cet exercice?
Mais oui, je me souviens de ces grandes feuilles blanches. Moi, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours besoin de poser par écrit. C'est ancré dans mon processus de réflexion. J'ai besoin de poser les choses par écrit pour, tu vois, pour que ça avance, pour y voir clair, etc. C'est vraiment un truc... et je pense qu'on nous apprend beaucoup les choses comme ça. Quand on est à l'école, tu vois, à mettre par écrit ou même moi, je vois, je pense à un truc, je me dis tout de suite, faut que je le mette par écrit, faut que je le note. Même si maintenant, ma manière d'écrire, elle évolue. Évidemment, j'écris tout sur mon téléphone. Parfois, j'écris en faisant des notes vocales. C'est un peu absurde. Mais il y a toujours ce truc d'écriture. Ça a évolué, mais il y a toujours ce truc où j'écris pour structurer ma pensée, pour voir où je vais, en fait.
D'ailleurs, c'est marrant parce que cet exercice qu'on faisait beaucoup, c'était aussi pour traduire une règle de droit, pour la transformer en quelque chose de plus ou moins lisible.
Pour la traduire.
Ouais. C'est ça. Ouais. On faisait de la traduction de règles de droit déjà à l'époque, alors que ça faisait déjà bien longtemps qu'on faisait. Et juste pour faire une petite parenthèse un peu féministe dans cet échange, je trouve que la relation qu'on avait au travail, c'était une vraie relation qu'on pourrait appeler de sororité. Mmh. En fait, on a été amenés à vivre beaucoup de situations assez difficiles dans le cadre de notre travail. Et c'est très curieux parce que le lien qu'on avait, c'était un lien qui a généré beaucoup, je ne sais pas si c'était de la jalousie, mais ça générait une forme d'inconfort dans les personnes qui étaient dans notre hiérarchie, en fait. C'était très gênant de voir que nous, on était prêtes à se battre l'une pour l'autre, à protéger l'une et l'autre. Et je sais pas quoi, pour moi, c'est un bon exemple de ça.
Oui, carrément. Il y avait une espèce de solidarité entre nous et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, en fait. Mmh. Et surtout dans le milieu du travail où on a tendance peut-être à mettre les gens, tu vois, en compétition, ou même sans aller jusque-là, mais à comparer beaucoup. Nous, on avait vraiment ce truc où on était solidaires et on avançait ensemble et ça nous a sauvés, je pense.
Ouais, complètement. Et c'était... je pense que pour moi, ce que je retiens, c'est vraiment ça, quoi. C'est le fait que c'était un rapport qui gênait les autres.
Mmh.
C'était que c'était plus fort qu'eux et il y avait une forme de c'est pouvoir ça. Là-dedans aussi, quoi.
Ouais, tout à fait.
C'était notre contre-pouvoir. Et du coup, pour revenir à l'écrit, même s'il peut être un outil de domination, et enfin, on voit aussi avec l'aspect plus propre de l'écrit comme règle au final, dans ses formes plus créatives, c'est peut-être là que je vois aussi l'écrit comme une forme de contre-pouvoir.
Ouais, en fait, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que écrire, c'est thérapeutique. Tu vois, t'es dans l'introspection et pourtant, c'est complètement universel. Je pense que tout le monde a besoin des fois d'écrire. Alors, pas forcément d'écrire, mais de formaliser quelque chose. Et en fait, ça part d'un truc très personnel et ça devient complètement collectif parce que quand tu le partages, ça parle à tout le monde. Et ça répond à plein de choses. Enfin, voilà. Moi, je vois vraiment l'écriture comme ça. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau de se dire que l'écrit est personnel, mais qu'il devient collectif, en fait. Je trouve ça hyper joli parce que c'est vrai. De toute façon, bah, c'est un peu comme faire un podcast aussi, non ? Ça devient un espace partagé à partir du moment où il y a quelqu'un qui écoute ce qu'on est en train de raconter.
C'est ça.
C'est ça qui est beau aussi.
Mm.
Je trouve ça cool. C'est trop bien. Et comment est-ce que tu peux décrire un peu ta pratique ? Parce que oui, en fait, bon, on va expliquer aux gens, c'est que Fleury n'a pas seulement une pratique juridique de l'écrit, c'est que tu as aussi... c'est que tu as aussi une pratique créative de l'écrit.
Ouais. Oui, j'ai écrit un roman que j'ai auto-édité et j'écris... alors, un peu moins en ce moment, mais j'ai écrit des nouvelles. Enfin, voilà, j'écris depuis longtemps, mais en termes d'aboutissement, pour l'instant, il y a eu ce roman et quelques nouvelles. Et c'est qu'en fait, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu cette envie d'écrire. Et j'ai mis à profit le temps que j'ai eu, notamment au moment du confinement, etc., pour pousser un peu ça. C'était pas évident, mais je me suis un peu fait violence pour aller au bout de l'histoire, quoi. Et je regrette pas du tout parce que ça m'a appris plein de choses et c'est vraiment que du positif. Mais oui, et sortir de l'écriture, parce que on m'a souvent dit, ah, t'as une belle plume, tu vois, au travail, on valorisait ça en disant, bah, Fleury, tu peux rédiger ça, etc. Mais c'est tellement différent d'écrire pour soi que c'est une démarche radicalement différente et c'est génial, c'est bien plus valorisant finalement que d'écrire dans le cadre du travail.
Mais ouais, carrément. Et bah oui, parce qu'au final, de toute façon, c'est une pratique assez différente en fait. Est-ce que tu as toujours écrit de la fiction ou pas ?
Oui, j'écris parfois, mais c'est plus des bribes, tu vois, des bribes d'essais sur des sujets qui m'interpellaient. En fait, je pense que quand tu as envie d'écrire, peu importe ce que tu écris, il faut que tu prennes ce qui vient Et il faut te lancer. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas s'imposer un cadre. Il faut prendre l'inspiration quand elle est là et en faire ce que tu as envie d'en faire. Mais oui, moi, je suis partie dans la fiction. Et j'ai écrit ce roman, après, qui rejoint plein de trucs que j'ai vécu au travail. Des choses dont j'ai connaissance par l'expérience que j'ai eue. Mais on reste sur de la fiction quand même.
Ouais, bah oui, bien sûr. Et c'est, tu peux nous présenter ton roman ?
Oui, ça s'appelle Les rayons de Saturne. Donc c'est une histoire, ça se passe dans une petite commune du nord de la France. Et il y a une usine qui ferme. Et en fait, on suit plusieurs personnages dont les vies évoluent en fait, à cause de cette fermeture d'usine. Et leur chemin se croise un peu autour de ça. Okay. Voilà, sans en dire trop, mais voilà l'histoire.
C'est trop bien. Ça me rend trop fière à chaque fois que mes amis commencent à lancer leur projet créatif. C'est, je sais pas, il y a une forme d'autosatisfaction, je ne sais pas pourquoi.
Je comprends.
Mais j'ai tendance à être très fan de mes amis. Et du coup, je suis trop, trop fière de toi pour d'avoir fait ça. Et puis aussi,
merci.
D'avoir appris à t'accorder ce temps, au final, qui est nécessaire pour l'écriture.
Ouais, le temps est aussi... je pense que je me sentais pas légitime au début. Je me sentais pas légitime à créer. C'est débile, mais je m'étais jamais vue comme quelqu'un de créatif. Finalement, je me suis dit, allez, je me lance. Mais tu sais, je me suis lancée parce que j'ai vu des copains autour de moi qui se lançaient, qui s'auto-limitaient moins, je pense, que ce que moi je faisais. Et je pense qu'en fait, on est tous des génies créatifs en puissance. Faut juste se donner une chance. Mais je ressentais pas la légitimité de le faire. Oui, je m'étais jamais dit je suis une artiste, je suis une auteure. Jamais, jamais j'avais pensé ça de moi. Et encore aujourd'hui, je ne pense pas vraiment en fait. J'ai écrit un livre, ok, mais...
Ouais, ça ne fait pas pour autant de toi une auteure, quoi.
C'est très dur.
Ouais, non mais je comprends entièrement. C'est bizarre aussi, ça rejoint un peu une réflexion que j'ai depuis quelques temps. Parce que moi aussi, pareil que toi, tu vois, moi c'est quelqu'un qui a... je l'ai déjà dit moult fois dans ce podcast, mais c'est quelqu'un qui a été très valorisé par mon intelligence, on va dire. Et du coup, c'était comme s'il y avait... on ne pouvait pas être à la fois intelligent et créatif.
Mmh. Ouais.
Et alors que c'est complètement idiot de penser comme ça, puisque l'intelligence est une forme de créativité. De toute façon, la raison est une forme de créativité.
C'est vrai.
Mmh. Et depuis un moment, j'ai réalisé quelque chose par rapport à mes pratiques plus créatives. Moi, je fais beaucoup de choses avec mes mains, notamment. Et tel que tu disais que l'écrit pour toi, l'écrit créatif au moins pour toi, c'est une forme de... Enfin, c'est thérapeutique. Pour moi, la création avec mes mains, c'est un truc qui est thérapeutique. Mmh. Ça m'apaise, en fait. Et j'ai réalisé que, au contraire, le travail plus intellectuel, plus de réflexion et d'écriture... était au final assez anxiogène.
D'accord.
Parce que je constate que l'écrit étant fini, il pourra toujours être meilleur.
Ouais.
Il sera jamais fini en fait. Et du coup, j'ai réalisé que pour moi, au moins, il y avait une forme d'anxiété là-dedans parce que je me disais, ça va jamais se terminer. Et du coup, comment je fais ?
Ouais, je comprends ça parce que les gens me demandent souvent combien de temps j'ai mis à écrire le livre. Et en fait, ça m'a forcé à y réfléchir. Et ce qui est terrifiant, c'est que écrire, j'ai pas l'impression d'avoir passé tellement de temps. C'était assez naturel. J'avais l'inspiration, en fait, donc ça allait. Mais j'ai passé tellement de temps à corriger ce que j'avais écrit. Mais peut-être 1000 fois plus qu'à écrire.
Ouais.
Et c'est fou, parce que c'est là où, effectivement, on perd du temps. Effectivement, c'est toujours perfectible. Et je pense que c'est aussi... C'est pour ça qu'il y a, je pense, plein de gens dont les projets n'aboutissent pas en termes d'écriture. Ce qu'il faut savoir, à un moment, dire « Ok, c'est pas parfait, mais moi, je m'arrête là, en fait. Ouais. » Et moi, j'ai eu ça, je me suis dit « J'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie d'écrire autre chose. » Et je me suis dit « Mais je peux pas laisser ça inachevé. » Je me suis dit « Tant pis, moi, j'arrête. » J'étais au max de ce que je pouvais donner. Et je l'ai relu, je sais pas combien de fois, j'en pouvais plus. Je m'arrête là et voilà, et je le donne aux gens et on verra ce qu'il en advient.
Bah ouais, je pense que de toute façon, on ne peut pas... Voilà, comme tu dis, c'est toujours perfectible. Et ça me fait penser Il y a un chanteur uruguayen que j'aime beaucoup qui s'appelle Jorge Drexler, qui est un grand poète. En fait, il écrit vraiment de très belles chansons. Les paroles de ses chansons sont vraiment très bien construites et très bien pensées. Et dans son dernier album, qui a gagné genre tous les Latin Grammys et tout, il a écrit une chanson où il parle de son processus d'écriture.
D'accord.
Et là-dedans, il dit « Ce que j'écris n'est pas gravé dans le marbre. Il s'agit à peine d'une libération de pressentiments dans le vent. Je demande ce dont j'ai besoin, de l'encre et du temps. » Et j'ai trouvé que c'était tellement... C'est ça, quoi.
Ouais.
C'est tout ce qu'il te faut.
Ouais.
Il n'y a pas besoin de plus.
C'est sûr.
Toute la partie la plus anxiogène qui vient après, dans la relecture, dans la réécriture, dans la vérification de,
ouais,
de l'information que tu as donnée.
Oui.
Ouais. Tout ça. Voilà. C'est un... Ouais, c'est un processus difficile quand même, écrire.
Ouais, et très, très personnel. Je pense qu'il n'y a, ouais, pas deux façons d'écrire identiques. Enfin, voilà, y a pas, en tout cas, il n'y en a pas une bonne, quoi. Il y a mille façons d'écrire. Et je pense que chacun peut avoir une approche très personnelle.
Mmh. Ouais, carrément. Est-ce que tu as toujours aimé écrire ?
J'ai toujours aimé écrire. Alors, j'adore lire. Je lis beaucoup depuis toujours. Je pense que ça, c'est venu un peu en complément. Je pense que j'ai lu des livres qui m'ont fait dire « j'aurais aimé écrire ça ». Et c'est un peu ça qui a été le déclic.
Trop bien. Est-ce que tu t'inspires de certains auteurs en particulier quand t'écris? Comment est-ce que t'as trouvé ton style d'écriture, en fait?
Alors, je sais pas si j'ai trouvé mon style, parce, okay, que j'ai l'impression que j'écris encore des choses différentes. Par exemple, la nouvelle qui a été publiée là, il y a pas longtemps, est dans un style complètement différent,
okay,
du roman. J'ai adoré écrire les deux, mais c'était deux trucs très différents. La nouvelle, c'était hyper intuitif, j'ai tout écrit d'un coup, c'était, ouais, voilà. Le roman, c'était beaucoup de travail, plus de recherche, etc. Donc, deux processus différents, deux styles différents. Mais il y a évidemment, je pense, j'ai des inspirations. Enfin, moi, je suis une grande fan de Nicolas Mathieu, par exemple.
Okay.
Et y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, quand j'ai lu ton roman, ça m'a fait penser à Nicolas Mathieu, tel roman, etc. » Et du coup, je pense que forcément, oui, y a un peu de... Tu vois, de... J'ai un peu... Quand je le lis, lui, je me dis « Ah, ça, c'est le style que j'aimerais écrire. » Et du coup, ça se ressent forcément.
En fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est que... en parlant de style d'écriture, notamment, moi aussi, je lis beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Et au final, c'est vrai qu'il y a des livres qu'on lit plus juste parce qu'on aime la façon d'écrire de la personne qui l'a écrit que parce qu'on s'intéresse vraiment à l'histoire, en fait.
Ouais.
Il y a des... Je sais pas, il y a un livre qui m'a particulièrement marqué qui est « En sang froid » de Truman Capote.
Ouais.
Ce bouquin... Bon, l'histoire est incroyable, certes, mais... C'est juste une écriture,
oui,
qui est trop puissante, en fait. Il y a un truc, c'est un bouquin que j'ai lu il y a 20 ans, et jusqu'aujourd'hui, tu vois, si j'y repense, ça me provoque quelque chose.
Ouais. Oui. Il y a des fois, c'est l'écriture qui emporte et pas l'histoire. Il pourrait raconter n'importe quoi. C'est la manière dont c'est dit, en fait. Ouais. C'est... Après, je pense qu'il y a des... Enfin, je dis j'écris dans des styles différents. Peut-être qu'en fait, peut-être le même style, j'en sais rien. C'est très difficile de se définir, ouais, tu vois, de clair. Définir son style. Peut-être qu'en fait, on voit que c'est la même personne qui a écrit. Je sais pas. Ce serait un test à faire.
Ouais. Non, mais c'est, je sais pas. Tu vois, c'est des questions qu'on se pose pas. Moi, je sais pas si j'ai un style quand j'écris ou pas. C'est une question que j'ai commencé à me dire en faisant ce podcast, notamment. Puisque,
ouais,
là, par exemple, c'est un épisode où il y a très peu d'écrit qui mm-hmm. est impliqué dans cette histoire. Mais dans mes petits épisodes, c'est des épisodes qui sont entièrement écrits.
D'accord.
Et la dernière fois que je l'ai écouté, je me suis dit, c'est trop écrit. ça me dérange, j'aime pas le style, justement. J'aime D'accord. bien l'idée, mais j'aime pas son exécution.
Ouais.
Et c'est parce que j'aime pas l'écrit.
D'accord.
Et du coup, je me dis, alors que là, c'est pareil, c'est un peu comme ce que tu décrivais par rapport à ton roman, tu sais, c'est un travail où j'ai écrit une première, il y a un premier jet. Moi, j'écris toujours d'un seul jet, en général. Et puis ensuite, je retravaille 25 fois après, jusqu'à ce que ça ressemble à peu près à ce que je veux. Et là, je me suis dit, il faut changer, tu vois, il faut changer le style, ouais, de l'écriture. Et c'est ça qui va être difficile pour moi parce que je ne suis pas sûre de savoir comment changer de style quand j'écris, en fait.
Ouais, oui. C'est difficile parce que... Et puis, il y a ce truc où tu n'as pas envie d'être dans une case. Je sais que quand j'ai auto-édité le roman, on me demandait de mettre des étiquettes, pour le référencement.
Ok.
Ouais. Et c'est très dur. Alors, je me dis, bon, il y a... C'est un peu social, c'est un peu... Mais voilà, tu trouves un ou deux mots et après c'est difficile de devoir mettre ton roman dans une case, de dire mais comment les gens vont tomber dessus, qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Oh là là,
ouais.
c'est dur parce que je trouve qu'en plus tu peux... Des fois, tu vas lire un livre en disant c'est pas mon style, c'est parce que je n'y serais pas allée du premier abord et finalement j'adore. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter de se laisser surprendre.
Ouais, carrément.
Et inversement, quand t'écris, de te dire, bon, je vais pas m'imposer tel style au départ. On verra ce que ça donne.
Ouais. Et puis, c'est surtout toujours cette tristesse de devoir mettre ta créativité dans une case, ouais. Alors qu'elle y rentre clairement pas.
Ouais, exactement.
Ouais, c'est clair. Si on devait s'imaginer un autre type de rapport à l'écrit, Comment est-ce qu'on vivrait ça différemment ?
Waouh ! Un autre rapport à l'écrit. Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la manière dont on rédige les règles qui cadrent la manière dont on vit. Ça, c'est clair. Je pense que sur le volet récréatif, je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve en librairie, ce qu'on trouve dans les maisons d'édition, c'est très normé, quoi. Ça répond vachement à... Tu vois, c'est débile, mais il y a des maisons d'édition, si tu veux déposer ton manuscrit, il faut qu'il fasse autant de pages, il faut qu'il y ait autant de mots. Enfin, à quel moment on réglemente autant la manière dont les gens écrivent, tu vois ?
Ouais.
Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il faut sortir du cadre. Il faut penser...
Ouais. Et dans la manière, par exemple, dont tu transmets... Est-ce que toi, tu as des nièces et des neveux ? Est-ce que ta passion pour l'écriture ou pour la lecture, est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec elles et eux ?
Oui, moi, je suis la tati qui offre des livres à Noël, qui n'offre que ça, que des livres. Mais oui, moi, je garde tellement un souvenir incroyable de la lecture... Mais il y a encore des romans auxquels je pense maintenant que j'ai lus genre à 10-12 ans et qui m'ont marqué, que j'ai envie de relire. Mmh. Et en même temps, j'ai pas envie parce que j'ai peur d'être déçue. Et en même temps, j'en garde tellement un souvenir, mais impérissable, de certaines lectures. Je me dis, c'est trop beau, c'est trop une chance d'avoir ça. Mmh. Et j'ai envie de le transmettre à mes neveux, à mes nièces, etc. Mais... Je sais pas si si je force ça va les dégoûter, tu vois. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a ça peut venir plus tard la lecture. Il y a cette phrase qui dit si tu n'aimes pas lire, c'est que tu n'as pas encore trouvé le bon livre. Mm-hmm. Tu vois, moi je crois beaucoup à ça. Je pense que tout le monde aime lire en fait. Il faut juste trouver le bon livre.
Ouais, le bon style, le bon livre, la chose qui te parle quoi.
C'est ça.
Et bon, on commence à arriver à la fin de cet échange. Donc si les choses avaient changé, à quoi ressemblerait le monde avec une façon d'aborder l'écrit un peu différente ?
Waouh ! Je sais pas répondre à ça, mais je pense qu'il y a plein de choses à inventer, à écrire et à inventer. Et je voulais, parce que j'ai écouté ton petit délire de la dernière fois sur Bell Hooks, et tu avais dit une phrase géniale, t'as dit c'est drôle de se sentir si proche de quelqu'un dont on a connu qu'on ne connaît que par la lecture de quelque chose qu'elle a écrit ou de ses pensées, et je trouvais que c'était une super phrase et que c'est peut-être en fait l'écriture juste un moyen de faire du lien finalement.
Trop bien, l'écriture comme moyen de faire du lien, j'adore. Merci beaucoup Fleury.
Merci à toi.
Ça m'a vraiment fait trop plaisir d'avoir ce petit moment de pensée collective.
Moi aussi, c'était très chouette.
C'est quoi ce délire est un projet très personnel mais aussi très collectif. Je remercie Morgane pour la réalisation de cet épisode, Théo qui a fait la musique et Mélodie qui a conçu l'identité visuelle. Pour connaître les actualités de mes délires et ceux de mes invités, rendez-vous sur mon Instagram, @danae-mro, et abonnez-vous surtout à C'est quoi ce délire sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain délire.
Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment, à écouter en replay sur lemoment.org.